Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes dans les studios de Radio Taf à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées, les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Alors aujourd'hui nous allons parler, on va peut-être rappeler ça ainsi, aux armes, les sionistes, de l'effort de guerre...
Former vos bataillons.
Absolument, de l'effort de guerre sioniste pour l'Angleterre, mais avec une arrière-pensée. Peux-tu nous en parler ?
Oui, c'est-à-dire que le sionisme, mouvement sioniste en tout cas, comprend que dans cette guerre, dans cette première guerre mondiale, pour pouvoir obtenir des gains pour le mouvement sioniste et pour ses objectifs, il faut participer à l'effort de guerre. Et donc, si on ne contribue pas, eh ben, on ne peut pas ensuite venir et réclamer, revendiquer des droits. Et donc, cette théorie, qui est tout à fait logique, est défendue notamment par quelqu'un qui sera un des dirigeants sionistes de la période, disons, du mandat britannique et jusqu'à la début de la Seconde Guerre mondiale, qui est Zev Jabotinsky, qui était le fondateur après du mouvement révisionniste et du Bétard, mais qui lui propose déjà la création d'une légion juive qui prendrait part au combat.
D'accord.
Dès le début de la guerre, assez rapidement, il prend des contacts afin de réaliser cet objectif. Ils seront à Alexandrie, il va voir Sir Graham, qui est le représentant de l'Empire britannique à Alexandrie, en Égypte. Et il propose de créer une légion juive. Et évidemment, les Britanniques ne sont pas extrêmement enthousiastes, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir des soldats juifs, justement pour ne pas avoir, pour ne pas être engagés par rapport à ces bataillons juifs. Dans un premier temps, ils vont accepter la création d'un corps de muletiers.
De muletiers,
oui.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une unité non combattante dans laquelle... à laquelle participeront 600 juifs qui vont s'engager dans ce corps de muletiers qui va participer avec le colonel Patterson dans ce qu'on appelle la campagne des Dardanelles dans les fin de l'année 1914, début de 1915.
Exactement.
En Turquie.
D'accord.
Voilà. Et donc l'état-major britannique n'envisage pas à l'époque l'occupation de la Palestine et donc c'est la raison pour laquelle ce corps de muletiers va combattre ou en tout cas participer au combat dans cette région qui est la région des Dardanelles. Le détroit des Dardanelles, c'est le détroit qui est au fond de la Turquie, qui est sépare en fait l'Occident de l'Orient. Par la suite, il y aura d'autres bataillons juifs qui seront créés. Et en parallèle, au même moment, c'est-à-dire au début de 1915, un petit groupe de sionistes en Israël, en Palestine, décide de s'engager en faveur de l'Angleterre et de créer un réseau clandestin de résistance et d'espionnage.
D'accord.
Alors, ça l'a fait polémique, puisque dans un premier temps, il est bien évident qu'une partie de la population juive de Palestine avait été expulsée parce qu'ils étaient russes et parce que c'était des dirigeants sionistes, ils avaient été expulsés vers l'Égypte ou vers d'autres pays. Et une partie de la population qui reste craint à la fois pour
également
sa sécurité, mais aussi la situation est assez difficile économiquement. Donc ils craignent des représailles de la part du pouvoir turc si les juifs de Palestine s'engagent en faveur de l'Angleterre. Donc ce réseau, dès le départ, va être un réseau clandestin et il va être créé par un grand sioniste qui vit dans une ville qui s'appelle Zichron Yaakov, qui est une des premières bourgade juive créée à la fin du 19e siècle, et cette famille s'appelle la famille Aronson. Cette famille Aronson, donc le fondateur de ce premier réseau, va être Aaron Aronson, qui est un agronome qui justement développe certains procédés d'agriculture dans sa ferme du côté donc de Zichron Yaakov. Il connaît parfaitement la langue arabe et il est en relation justement avec le pouvoir turc. Il a d'excellents contacts avec tout le monde et donc il décide, lui, de poser les jalons de cette organisation de résistance et d'espionnage qui va essayer d'aider les Britanniques à conquérir la Palestine. Et donc il crée ce réseau, il se rend en Angleterre, il essaie de prendre des contacts, puisqu'il voyage pour son travail, il prend des contacts à Alexandrie, il prend des contacts en Angleterre. Et donc, grâce à ses fréquents déplacements du fait de son travail, il connaît parfaitement les points faibles du pouvoir ottoman, mm-hmm. et notamment les positions, là où se trouvent l'armée, là où il y a des casernes, là où il y a des bataillons, là où il y a des soldats turcs. Et donc, il décide... il avait été employé d'ailleurs un moment par les Turcs pour lutter contre les sauterelles. Et donc il avait été en contact avec le pouvoir ottoman, le pouvoir turc. Il était allé donc en Turquie, donc il connaissait pas mal de gens. Et il décide, avec son beau-frère, Avshalom Feinberg, de créer ce réseau, dans ce réseau, il mettra également sa sœur, Sarah Aronson, qui va devenir l'héroïne est peut-être le symbole, justement, de ce groupe de résistance et d'espionnage.
Comment s'appelle-t-il, ce réseau d'espionnage ?
Alors, ce réseau d'espionnage a décidé de prendre le nom de Nili.
Pourquoi ?
Nili, c'est un verset de la Bible, du livre de Samuel, Aleph, qui dit « Netzach Israël lo ishaker », c'est-à-dire l'éternité d'Israël ne mentira point. C'est-à-dire, Israël est un peuple éternel, il y a une éternité du peuple d'Israël. Et donc, il comprend dès le départ qu'il faut aider l'Angleterre. Et au départ, il envisage peut-être un débarquement en Palestine. C'est ce qu'il propose aux Anglais. Les Anglais pensent que ce n'est pas possible, qu'ils préfèrent plutôt essayer de conquérir en remontant de l'Égypte par le Sinaï et en occupant la Palestine par l'infanterie, donc par l'armée de terre. Petit à petit, il arrive avec un autre de ses frères qui s'appelait Alexander Aronson. Il se rend en bateau de Haïfa au Caire et prend contact pour convaincre les Anglais de créer ce réseau d'espionnage. Ce réseau d'espionnage, au début, les Anglais ne le prennent pas très au sérieux. Ils disent, vous savez, qu'est-ce que les Juifs qui viennent comme ça nous dire ce qu'on a à faire voilà. Ils ne croient pas, finalement, à l'efficacité de ce réseau. Mais lorsqu'ils se rendent compte, en fait, que Aronson a des informations et que ces informations sont fiables, petit à petit, ils acceptent de créer ce réseau 2 mois plus tard. Et ce réseau va travailler avec les services qu'on appelle Intelligence Service, c'est-à-dire les services de renseignement britanniques.
Est-ce que ce réseau a eu plus d'influence que le bataillon juif dans l'armée britannique ?
Alors, ce sont deux choses tout à fait différentes. Je pense que symboliquement... la façon dont s'est déroulé ce combat, et surtout la fin, on y reviendra, de ce réseau Nili, qui a été un réseau de gens qui ont pris de véritables risques, comme tout réseau d'espionnage, et qui, évidemment, ont réussi à mener des missions extrêmement périlleuses et dangereuses, avec notamment des déplacements, des voyages, ils se déplaçaient, ils allaient amener les informations, et puis ils utilisaient les moyens de l'époque, et notamment un moyen de communication que tu aimeras beaucoup, c'est les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs, c'était la façon de transmettre des informations. Et donc, ils ont maîtrisé cette technique, ils arrivaient à envoyer des pigeons voyageurs en Égypte pour donner des informations sur la position des soldats, turcs qui se trouvaient en Palestine. Alors évidemment, ce réseau a compris environ 200 personnes, à peu près. Je pense qu'il y a eu 200 personnes. Il n'y avait pas vraiment de chef, même si Aaron Aronson était le fondateur. Mais ce n'était pas un réseau qui était conçu de façon hiérarchique. Il y avait 23 chefs de section, d'une certaine façon, et 200 personnes qui ont participé à ce réseau, en prenant d'énormes risques de traverser les frontières et pour transmettre des informations à la fois physiquement et aussi par le système des pigeons voyageurs et également de Telex et de toutes sortes d'autres de télégrammes. Et donc, ils ont utilisé, par exemple, ce qu'on appelle le chiffre, c'est-à-dire le fait de coder tous leurs messages. Ils ont appris toutes les techniques, je dirais, de l'espionnage moderne. Et grâce à ces contacts, on pense qu'ils ont facilité l'entrée des Britanniques parce que les informations qu'ils donnèrent étaient des informations extrêmement fiables. Mmh. Et sur le terrain, on a pu vérifier que lorsqu'ils donnaient des informations sur la position et surtout sur le nombre de soldats. Parce que ce qui a convaincu, au fond, les Britanniques de mener leur campagne de 1917 pour l'occupation, qui a été une campagne assez rapide, c'est justement le fait que le réseau Nili avait donné le nombre exact de soldats, qui était de l'ordre de 20 000, mmh. ce qui n'était pas très important. Et donc, c'est grâce à ces informations que, disons, l'occupation ou la conquête de la Palestine a pu être réalisée par l'armée britannique. Donc, d'une certaine façon, ce réseau Nili a eu une influence, je dirais, déterminante sur la conquête de la Palestine. Les autres bataillons, les autres légions juives ont eu une autre importance, mais moins, je dirais, sur le déroulement de la guerre en Palestine. Ils ont participé à la guerre, mmh. symboliquement, c'était important. Mais disons que, je dirais, dans l'imaginaire, si on peut parler de mythologie sioniste, si tu veux, le mythe de Nili, c'est quand même à l'origine de, je dirais même, de la morale des soldats d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire que Nili, ce sont des gens qui se sont sacrifiés, qui sont allés jusqu'au bout et qui ont laissé pour la plupart leur vie, puisque ce réseau, à un moment, a été découvert, démantelé. Et donc, il y a eu des gens qui ont perdu leur vie. Tous les chefs de ce réseau de résistance ont été condamnés à mort. Et notamment Sarah Aronson, mm-hmm. qui s'est suicidée.
Pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée ?
Alors, Sarah Aronson, lorsqu'elle a été... Et en fait, un des membres de ce réseau, qui s'appelait Belkin, a été fait prisonnier en septembre 17, donc peu de temps avant l'occupation, mm-hmm. en fait, la conquête de la Palestine. Et malheureusement, sous la torture, il a livré des informations. Et donc, on a découvert, en fait, un des pigeons voyageurs avec des messages qui avaient été codés par Sarah Aronson. Mm-hmm. Sarah Aronson, qui était connue des Turcs, qui avait des amis même, puisque sa famille travaillait aussi avec les Turcs, a été arrêtée. Et donc, comme elle a été torturée pendant 5 jours, elle n'a pas parlé. Et donc, elle a été condamnée à mort. Mais les Turcs voulaient que cette condamnation à mort soit réalisée à Damas. Et donc, ils ont voulu l'emmener à Damas. Et elle a demandé la permission d'aller chez elle pour se laver avant de mmh. partir pour Damas, pour cette pendaison.
D'accord.
Et en fait, quand elle est rentrée chez elle, elle avait caché dans sa salle de bain un petit revolver et elle s'est suicidée. Elle n'est pas morte tout de suite, elle a agonisé pendant 3 jours.
Wow.
Mais les Anglais n'ont pas réussi à lui soutirer d'informations, ce qui fait que dans la mythologie sioniste, Sarah Aronson, on dit Sarah Giborat Nili. Sarah, c'est l'héroïne du Nili, parce qu'elle s'est suicidée justement pour échapper à la torture. Et puis les autres membres du réseau, 2 ont été pendus à Damas et 1 a été tué par des bédouins dans le Sinaï.
Bon, on va en savoir un peu plus après cette courte pause musicale.
שקיענו גם הים עובד בערפל ודומיה גדולה הרוח נח על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות ואת ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות נא זכרי רב חובל שב אלייך בספינה רדופה בכי ושכול הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הלילה רב פתאום גברו המרחקים כלחש אילנות כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות אשתי אחות לחייך מכבלים מגדרות הברזל עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל ואת האי הבודד יכלני כיסופי עוד יפליגו עם ליל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר החובל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר החובל.
Quelle belle chanson.
Ah bah c'était Guy Digov, une chanson sur les bateaux, sur la mer, sur ce beau pays. Et le réseau Nili, effectivement, c'est un réseau qui a beaucoup marqué les esprits parce que je crois qu'idéologiquement, c'était des gens évidemment courageux, mais qui aussi ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce choix politique, au risque, évidemment. Ils ont mis en danger peut-être la population juive, mais c'est justement parce qu'ils craignaient les Turcs.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que les Turcs avaient déjà commis deux grands massacres. On pourrait même dire deux grands génocides. Celui dont on parle beaucoup, qui est celui des Arméniens. Mm-hmm. Et Hermanson en parle, et il dit que les Turcs sont des gens extrêmement cruels qui sont capables de faire ce génocide, mais aussi un autre génocide dont on a moins parlé, qui est celui de ce qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient aujourd'hui, de façon un peu générale. C'est un peu général de dire les chrétiens d'Orient, mais il y a environ 150 à 200 000 Assyro-Chaldéens qui ont été massacrés au début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, par les Turcs. Et donc, Aronson pensait que les Turcs n'auraient absolument aucun scrupule à faire la même chose avec les Juifs. Et donc, il fallait prendre position, il fallait se ranger du côté de l'armée britannique pour défendre, non seulement pour libérer et pour essayer de faire avancer, disons, l'objectif du sionisme, mais aussi pour défendre la vie de ces Juifs, parce que si, par hasard, les Anglais n'arrivaient pas rapidement à libérer la Palestine, eh bien, les Turcs étaient capables de faire exactement la même chose que ce qu'ils avaient fait aux Arméniens et aux chrétiens assyro-chaldéens du nord du Liban. Donc, quelque part, c'était un choix idéologique, mais un choix idéologique réfléchi de gens qui ont compris que l'avenir du peuple juif se jouait sur cette Première Guerre mondiale. Ils ont pris les armes. Ils ont risqué leur vie, ils ont perdu leur vie, puisque la plupart des chefs de ce réseau, qui sont connus en Israël comme étant des héros, à part Sarah Aronson, aussi Aaron Aronson, mais aussi Lishansky, Avshalom Feinberg, Belkin, qui ont été pendus, eux, à Damas, au Ekour, par le pouvoir ottoman. Donc, quelque part, ce réseau a eu une grande influence sur, je dirais, l'imaginaire sioniste. D'une certaine façon, on a compris que nous n'allons pas obtenir cette terre sur un plateau d'argent, on ne nous fera pas de cadeau, et il va falloir payer, de sacrifices lourds, le fait de pouvoir rétablir ces foyers juifs sur la terre d'Israël. Et ça, je crois que c'est le message de Nili. Nili, c'est lié évidemment à la ville de Zichron Yaakov, puisque c'est là où la famille Aronson avait cette magnifique ferme. Et je t'encourage, Stéphanie, quand tu auras Zichron Yaakov, d'aller dans la maison d'Aronson, qu'on peut visiter, qui a été transformée en un musée. C'est absolument magnifique, très intéressant, avec une reconstitution de toute l'histoire, justement, de ce réseau Nili, qu'on connaît peu, je dirais, hors d'Israël, mais en Israël, c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, de notre patrimoine, à la fois culturel, national, mais militaire. L'idée que, finalement, cette terre, il va falloir la payer par notre sang, mais aussi l'idée qu'il y a des valeurs et que ces valeurs, elles sont défendues par des hommes, par des femmes. Sarah, alors il y a évidemment un côté un peu romantique dans la façon dont elle se suicide, évidemment. Il y a eu Un très très beau livre qui a été écrit en hébreu par Dvorah Omer. C'est un grand classique que tous les enfants apprennent dans les écoles en Israël. Ça s'appelle Sarah Giborat Nili, Sarah l'héroïne du Nili. Il y a eu une pièce, il y a eu des films qui ont été faits sur ce personnage et le courage de cette femme qui n'était pas seulement dans sa ferme à Zichron Yaakov, mais qui allait traverser la frontière à plusieurs reprises, qui est allée en Syrie, qui est allée du côté de Damas, qui est allée du côté du Liban, qui est allée dans le sud et qui traversait la terre d'Israël pour justement recueillir des informations, récolter des renseignements qu'elle envoyait ensuite avec ses pigeons voyageurs depuis Zichron vers les services de renseignement britanniques. Mmh. Donc c'est un réseau qui a fonctionné, je dirais, presque un an et demi, deux ans, et qui aurait pu être sauvé, puisqu'ils ont été découverts peu de temps, quelques semaines avant l'arrivée du général Allenby en Palestine. Le réseau a été démantelé en septembre 1917. Les Britanniques sont arrivés au novembre, fin de l'année 1917. Mmh. Donc, à quelques semaines près, ils auraient pu rester en vie. Une partie des gens du réseau ont survécu, notamment le père qui a vécu très longtemps, jusqu'à plus de 90 ans, et qui a justement créé ce musée à la mémoire de ses enfants qui ont perdu leur vie dans cette première organisation de résistance. Il faut savoir, après, il y a eu des organisations juives de résistance, mais évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a vu pour la première fois des juifs se lever, prendre les armes et combattre pour défendre la terre d'Israël. Mmh. Et donc, on pourrait écouter une petite chanson sur la ville de Zichron Yaakov, que j'aime beaucoup, de Hoshik Levy.
בזיכרון תפנה ימינה, סע ישר בכביש. היזהר, יש עצור בכניסה. יש אנשים שמחים בזיכרון, כל אחד מכיר אותי. בזיכרון יעקב שלי. זיכרון יעקב שלי, זיכרון יעקב, לא תמצא מקום כזה, כזה טוב. בזיכרון תפנה ימינה, אל תמשיך לחיפה, וסע לאט ברחוב הראשי. יש אנשים יפים בזיכרון, וכולם יודעים לשיר. בזיכרון יעקב שלי. זיכרון יעקב שלי, זיכרון יעקב, לא תמצא מקום כזה, כזה טוב. בזיכרון אנשים שמחים בלילה וביום, בזיכרון אף אחד לא הולך לישון בחום. יש בקבוקים ריקים בזיכרון, וכולם שותים הכל. בזיכרון יעקב שלי. זיכרון יעקב, לא תמצא מקום כזה.
Zichron Yaakov.
Yesh Anashim Tovim. C'est-à-dire, il y a des gens bien, Zichron Yaakov. Chanson d'Oshik Levy, qui est originaire de cette petite ville, très agréable. Le dernier survivant, le fondateur du groupe Nili, avait survécu, Aaron Aronson, puisqu'il était à l'étranger au moment où le réseau a été démantelé. Mm-hmm. Mais malheureusement, c'est un destin tragique de cette famille. Il est mort en 1919 dans un accident d'avion entre la France et l'Angleterre. On a pensé un moment que c'était peut-être un attentat, je pense que non. Je pense que c'était un accident d'avion dans lequel d'ailleurs un officier britannique a également perdu la vie. Ce réseau a eu cette importance. Et puis, évidemment, il y a eu les troupes mobilisées. On a parlé du corps de muletiers de Sion qui avait été créé par Jabotinsky, qui était commandé par quelqu'un qui va avoir un rôle à jouer par la suite, justement, dans cette... je dirais, la création de cette vision d'un mouvement sioniste qui sait aussi se battre et prendre les armes, c'est Joseph Trumpeldor. Mm-hmm. Joseph Trumpeldor, c'était un officier de l'armée russe qui avait combattu et perdu un bras dans la fameuse guerre de 1905 entre la Russie et le Japon. Et donc, il avait intégré c'était le seul juif dans l'armée russe qui était officier.
D'accord.
Et donc, Jabotinsky avait considéré que, vu son expérience militaire, il était à même d'être le commandant de cette petite unité juive. Petit à petit, ce corps de muletiers s'est transformé en des bataillons de ce qu'on appelait les fusiliers, de fusiliers royaux. Mm-hmm. Et il y a eu trois légions juives qui ont été créées au cours de la guerre. À la fin des années de l'année 1916, début 1917, et ces trois bataillons ont de fusiliers du roi, on appelle ça les fusiliers royaux, ont participé à la libération de la Palestine, mais par le nord.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, Allenby est arrivé par le sud, par l'Égypte, mais une autre partie de ces bataillons ont combattu, sont arrivés et finalement ont participé, je dirais, à la fin de la conquête de la Palestine. Mmh. Ces trois bataillons, c'était les fusiliers royaux 38, 39 et 40.
D'accord.
Voilà, pour être précis dans les chiffres. Dans ces trois bataillons, il y avait évidemment Joseph Trumpeldor, mais également Zev Jabotinsky, qui a considéré dès le départ que la participation justement à une action militaire, la participation à la libération, devait passer par l'action militaire et par la bataille sur le terrain. Les Anglais avaient parfaitement compris ça, et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas permis aux Juifs de participer à la conquête de la Palestine avec l'armée d'Allenby.
Pourquoi ?
Justement pour ne pas que les Juifs arrivent avec le drapeau.
D'accord.
De Sion, le drapeau de Sion, et qu'ils défilent dans les rues de Jérusalem avec ce drapeau, puisqu'ils sont arrivés plus tard.
Mmh.
Et donc l'idée, c'était que ce soit les Britanniques qui libèrent la Palestine. Les Juifs ont participé après. L'idée des Britanniques, c'était ensuite de transformer ces trois bataillons de fusiliers royaux en une sorte de police. Donc en disant, voilà, nous avons des gens qui ont été entraînés par l'armée britannique et que nous pourrons ensuite utiliser comme policiers.
D'accord.
Jabotinsky ne l'entendait pas tout à fait la même oreille et lui considérait que ces trois bataillons devaient devenir une forme de réseau d'autodéfense par rapport à une situation qui commençait à devenir tendue en Palestine après la fin de la Première Guerre mondiale.
Tendue avec qui ?
Avec les populations locales et aussi avec l'armée britannique. Donc, quelque part, il se disait, il vaut mieux garder notre indépendance et rester comme une espèce de petit réseau d'autodéfense. Alors, évidemment, ça n'a pas exactement plu aux Anglais. Et de là a commencé un certain nombre de petits problèmes entre Jabotinsky et le pouvoir britannique autour justement du rôle que devaient jouer ces légions juives ou ces bataillons juifs qui ont combattu auprès de l'armée britannique. L'important, évidemment, était de l'ordre du symbole, à savoir la participation des juifs ou de mouvements sionistes à l'effort de guerre, puisque, bien évidemment, il y avait des juifs de toutes les nationalités dans la guerre, puisque dans toutes les armées, il y avait des juifs et ils ont participé à la guerre. Mais là, il s'agissait de participer en tant que représentant du mouvement sioniste.
Et est-ce que ça a eu un poids réellement pour les Anglais ?
Ça a eu un poids pour les Anglais. Je ne peux pas dire que ça a eu un poids pour eux dans leur décision. Mais évidemment, ça a eu un poids dans la mesure où ils ont compris que le mouvement sioniste était un mouvement qui était en train de s'organiser et que ce mouvement était également non seulement un mouvement politique, mais aussi un mouvement qui était capable de mobiliser des gens, de recruter des hommes et de créer une armée.
Mmh.
Et là, je crois que ça a changé aussi le point de vue des Britanniques, parce que quelque part, tant que les Juifs n'avaient pas d'armée...
On pouvait les faire patienter.
On pouvait les faire patienter et traîner. Et là, je pense que les Anglais ont compris. Alors, encore une fois, les Anglais, c'était une mentalité, encore une fois, la mentalité coloniale des Anglais. C'est-à-dire, pour les Anglais, tous ceux qui ne sont pas Anglais sont des indigènes.
Mm-hmm.
Donc, quelque part, c'était un petit peu curieux pour eux de voir qu'ils avaient face à eux des gens qui étaient, disons, d'origine européenne et qu'ils allaient entrer dans une armée. Ils n'étaient peut-être pas aussi bons soldats que les Britanniques, mais ils avaient en face d'eux des Européens, alors que dans la plupart de leur guerre coloniale, il y avait toujours ce qu'ils appelaient des indigènes, c'est-à-dire, dans la vision, vous voyez, pour ceux qui ont lu Rudyard Kipling, c'était un petit peu des sous-hommes, quoi, quelque
D'accord.
part. Alors là, ils ont fait un groupe qui est prêt à s'organiser militairement, qui sont des Européens, qui sont des gens qu'on ne peut pas considérer comme étant des sous-hommes, des indigènes. Donc, du point de vue du pouvoir colonial, c'était quelque chose d'assez de dérangeant de se dire... Donc, la première réaction du pouvoir britannique, ça a été « il faut briser ».
Ah oui.
Voilà, il faut briser cette organisation. Dès que la Palestine a été libérée, on va démobiliser, on va tout de suite démanteler ces trois corps de fusiliers royaux et il n'y aura plus d'armée juive.
Mmh.
C'est terminé.
Mmh.
Sauf que, évidemment, les membres de ces trois bataillons ont décidé de continuer à exister en tant qu'organisation, disons, d'autodéfense,
mmh.
sous la conduite de Jabotinsky et de Trumpeldor, et qu'ils ont considéré qu'ils devaient continuer à manier les armes, continuer à s'entraîner, continuer à préparer, au fond, la création d'une armée juive,
mmh.
d'une armée juive qui serait, pour Jabotinsky, qui avait sa conception, différente de celle d'autres sionistes, sa conception de dire que si on n'a pas une armée, si on n'a pas la puissance et la possibilité de recruter des hommes et que ces hommes soient prêts à se sacrifier, à donner leur vie, eh bien, on ne peut pas avoir d'État,
mmh.
parce qu'on ne donne pas de choses en cadeau.
Mmh.
Dans le monde moderne, tout est dans le rapport de force, et donc, quelque part, il faut que les Juifs apprennent à utiliser aussi la force.
Mmh.
Ça, c'est peut-être le changement de mentalité. Et c'était quelque chose qui a immédiatement été compris par les sionistes, qui à la fois avaient des soucis avec certaines bandes de voleurs et de pillards. C'était un pays qui n'était pas extrêmement discipliné, je dirais, sous l'Empire ottoman. Donc les Anglais ont voulu, d'une certaine façon... introduire des règles de fonctionnement avec une police et avec un contrôle militaire. Et donc, les Juifs ont considéré qu'ils avaient leur rôle à jouer dans cette autodéfense, à la fois par rapport aux Britanniques, pour montrer leur détermination, mais aussi par rapport à certains problèmes qu'il y avait avec les bourgs, bourgades, kibboutzim et autres, qui parfois étaient attaqués, soit par des pillards qui venaient voler, soit par des gens qui étaient opposés à leur présence. Donc, quelque part... je crois que cette idée qu'il y ait une force armée juive, c'est le résultat à la fois du groupe Nili,
mm-hmm.
mais aussi de ces corps de fusiliers royaux qui n'ont pas eu une influence déterminante dans la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas changé le cours de la Première Guerre mondiale, mais symboliquement, ça a montré la détermination du mouvement sioniste à entrer dans cette ère moderne où il faut avoir, disons, un minimum de force pour pouvoir faire entendre sa voix. Et ça, c'était important. Donc je crois que, de ce point de vue-là, ça a certainement joué un rôle extrêmement important. L'autre aspect des choses, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement, et ça, quand on lit, par exemple, l'autobiographie de Jabotinsky, c'est assez intéressant, où il raconte sa période, où il était justement dans cette légion juive. Il dit qu'il a découvert, par exemple, que... une partie des soldats britanniques étaient un petit peu antisémites.
D'accord.
et que chez les officiers britanniques, il n'y avait pas seulement des gens qui soutenaient le sionisme ou même qui soutenaient les Arabes, mais il y avait aussi des antisionistes. Et notamment, il raconte dans un passage qu'il a découvert que certains officiers britanniques avaient dans leur sacoche le protocole des sages de Sion, qui est un des grands documents antisémites du XXe siècle.
Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, de ce mythe ? Je sais que ce n'est pas vraiment l'émission pour, mais rapidement.
Ah ben ça, c'est un mythe qui a été créé par, on pense, par les services secrets russes, qui est un document qui, au fond, montre que il y a une espèce de conspiration mondiale du peuple juif pour dominer le monde. C'est fondé sur des documents soi-disant secrets qui ont été découverts, mais dont s'est rendu compte en fait que c'était un document qui avait été copié par un certain Maurice Joly, qui vivait au XIXe siècle en France et qui avait écrit un dialogue entre Montesquieu et Machiavel aux Enfers, qui était en fait un document qui parlait d'une espèce de conspiration pour dominer le monde. Et donc on avait mis les Juifs dans cette affaire. Mmh. Et petit à petit, ce document est devenu, je dirais, peut-être le document peut-être fondamental de tout l'antisémitisme moderne. Même jusqu'aujourd'hui, on entend des gens qui disent finalement les Juifs ont la puissance, ils essayent de dominer le monde par l'argent, par les médias, par je ne sais pas quoi. Donc quelque part, cette idée d'une conspiration, d'une façon générale, les gens ont tendance à croire au complot. Mmh. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on dit « Ah !» Il y a un complot quelque part, donc finalement, ce protocole des sages de Sion est un document qui a servi de base à l'antisémitisme moderne. Et Jabotinsky raconte que les officiers britanniques connaissaient ce document et même le diffusaient entre eux. Donc finalement, on se rend compte que lors de la nomination du premier, du premier haut-commissaire britannique, lors du mandat britannique, on a nommé un haut-commissaire dès le départ, qui s'appelait Herbert Samuel, qui lui était assez favorable au sionisme. On se rend compte que finalement, au-delà de la personnalité de ce premier haut-commissaire britannique en Palestine, il y a tout un réseau d'agents secrets et de responsables des services de sécurité britanniques sur le terrain, qui sont pour la plupart issus de son appel, de ces milieux imprégnés d'antisémitisme, ou parfois certains pro-arabes, comme l'avait été Laurence d'Arabie. Mm-hmm. Donc il y a à la fois ces deux choses-là qui vont jouer contre le mouvement sioniste à ce moment-là. Et évidemment, c'est, je dirais, l'idée que les Juifs prennent les armes, soit prêt à se défendre, soit prêt éventuellement à combattre, est quelque chose qui dérange beaucoup les Britanniques. Et donc on essaie de briser tout de suite, et notamment lors d'une émeute qui se déroule à Jérusalem, ce groupe d'autodéfense juive avec entre des Juifs et des Arabes, le groupe d'autodéfense juive intervient, et évidemment ce sont les Juifs qui sont mis en prison, et notamment Jabotinsky sera arrêté et mis en prison justement pour avoir organiser un réseau d'autodéfense illégal.
D'accord. Voilà. Nous allons faire une nouvelle pause musicale.
ושמש על העיר וטיסינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר בין כל הצלילים מחפש סימן יושב בצד הדרך יושב ליד הזמן מקיר לקיר נצא החוצה, מצב רק יחמיר. אז אני שומע סליל מאוד מוכר, מגיע מלמטה, רחוק מהכיכר.
Quelle chanson ?
Ah bah ça c'est Machina, c'est un grand groupe de rock israélien et ça s'appelle Train de nuit pour le Caire.
Pourquoi ça s'appelle comme ça ?
Oh bah c'est justement, ils reprennent un peu, c'est un petit peu humoristique, ils prennent un peu tous ces mythes justement sur les mouvements de résistance et puis ils sont un petit peu, c'est des cool, c'est des baba cool de Tel Aviv. C'est un groupe intéressant, Machina, c'est des chansons, c'est du rock israélien moderne et puis... Voilà, il faut être un peu dans la joie aussi.
Absolument, oui.
Donc, on va prendre le train de nuit pour le Caire.
Ok, on y va. On vous laisse.
On y va. Et donc, on se rend compte que tout de suite après la guerre, les choses se modifient. L'attitude de l'Angleterre devient un petit peu différente. Et notamment, Balfour va être remplacé par un autre ministre des Affaires étrangères. Et le Foreign Office va être dirigé par un certain Lord Curzon.
Et qu'est-ce que ça change concrètement ?
Ben Lord Curzon, il n'est pas très sioniste déjà.
Ça commence bien.
Donc ça commence bien. Et petit à petit, lorsqu'on voit le changement d'attitude, on se rend compte que sur le terrain, le gouvernement qui est mis en place, ou l'administration britannique qui est mise en place sur le terrain, est de moins en moins favorable aux sionistes. Alors on peut se dire que c'est peut-être tout à fait hasardeux ou une coïncidence, mais en fait, on a aujourd'hui des documents, notamment le journal d'un membre de l'état-major d'Allenby, qui lui était favorable aux sionistes, qui s'appelle le colonel Meinertshagen, qui montre qu'en fait, il y a une véritable machination qui a été élaborée par les officiers de ce qu'on appelait le bureau arabe, qui était au fond... la section arabe au Foreign Office et qui agissait sur le terrain, et qu'il apparaît clairement qu'ils ont organisé, les officiers britanniques, une opposition au sionisme dans la population arabe en leur disant, voilà, en essayant un peu d'inciter les Arabes à s'opposer aux sionistes de façon beaucoup plus active qu'ils ne le faisaient auparavant. Et donc, notamment, ils créent un mouvement national arabe en Palestine. Et ils vont inventer quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui va être ce qu'on appelle les autorités religieuses. Hein, les autorités religieuses musulmanes en Palestine.
Alors je résume, en fait, ils font un peu marche arrière par rapport à la déclaration de Balfour.
Ils décident d'instituer quelque chose qui s'appelle le Moufti de Jérusalem.
Mais pour éviter de le faire ouvertement, ils vont essayer de faire passer ça pour une opposition arabe.
Voilà. Et donc, sous l'influence, par exemple, du chef du district de Jaffa, qui s'appelait Hubbard à l'époque, on organise une association qui s'appelle l'association islamo-chrétienne des Arabes de Jaffa.
Islamo-chrétienne.
Oui, des Arabes de Jaffa. D'accord. En fond. Et l'activité est en fait pilotée complètement par un certain Capital Brunton qui, lui, proteste contre le sionisme au nom des Arabes.
Oui.
Et en disant la population arabe est extrêmement énervée par tout ce que font les sionistes, etc. etc. Il est bien évident que, dès le départ, cette administration militaire, elle va être remplacée par une administration civile, avec justement les accords qui vont être passés dans les conférences sur la paix. Et on encourage finalement les Arabes à s'opposer au sionisme. Le principal officier de renseignement, qui s'appelait Walter Taylor, décide de prendre contact avec les Arabes de Jérusalem pour créer une véritable opposition aux sionistes. Et il invente quelque chose qui va s'appeler l'opposition religieuse au sionisme, en créant une institution qui n'existait pas auparavant, qui va s'appeler le Moufti de Jérusalem.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Moufti de Jérusalem, c'est... on crée ce qu'on appelle un haut comité musulman, un haut comité suprême musulman, à la tête duquel on met un certain Khadja Amin el-Husseini, que l'on connaît puisqu'il va être le Moufti de Jérusalem, qui soutiendra d'ailleurs Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce Moufti de Jérusalem va être le fomenteur de cette... des premières manifestations contre les sionistes à Jérusalem et les premières émeutes qui vont aboutir à notamment le jour de Pâques en avril 1920 à une véritable manifestation qui tourne à l'émeute et dans laquelle les Juifs sont obligés de se défendre puisque l'armée britannique n'intervient pas. Elle reste de côté. Et donc la foule arabe qui attaque les quartiers juifs attaquent en criant en arabe, le gouvernement est avec nous. Donc, les choses sont claires. Alors, évidemment, le groupe d'autodéfense qui, à l'époque, prend déjà le nom de Haganah, qui va être à l'origine, ce qu'on appelait par la suite la Haganah, organisé par Jabotinsky et Pinchas Rothenberg, ils vont se défendre, mais évidemment, ils seront arrêtés par les Britanniques pour... et il est condamné d'ailleurs à 15 ans de prison pour détente d'armes illégales, etc., utilisation de la violence avec 20 autres membres de la Haganah. Ils sont mis en prison et ils se retrouvent en prison à Saint-Jean-d'Acre.
Et les Arabes sont emprisonnés également ?
Non.
D'accord, pourquoi ?
Eh bien, parce qu'ils ont, manifesté, le gouvernement était avec eux.
D'accord, c'est bon à savoir.
Alors évidemment, le tribunal militaire est obligé de condamner malgré tout les deux organisateurs arabes de cette manifestation, puisqu'il faut équilibrer la suite des protestations, notamment de la communauté juive britannique, qui dit « mais comment, c'est pas possible ?» Donc finalement, on condamne à la fois les deux, Khadja Amin el-Husseini et Arif el-Arif, mais on les prévient à l'avance de façon à ce qu'ils puissent partir à l'étranger avant.
Oh, c'est gentil.
Et donc, ils sont condamnés par, comme on dit, par contumace. Donc avant d'être jugé, on leur a dit de partir. Et voilà.
Donc Jabotinsky est condamné à 15 ans de...
Jabotinsky est condamné à 15 ans de prison, qu'il ne fera pas exact tout le temps. Il sera libéré un petit peu plus tard, mais il reste en prison un certain nombre de temps. Et il va, malgré tout, de sa prison, on se rend compte qu'il est un peu plus dangereux que quand il est à l'extérieur. Donc on finira par le libérer, mais en l'expulsant d'Israël.
D'accord.
En l'expulsant de la Palestine. Alors évidemment, on peut voir que tout ça, c'est le début de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le conflit. Hein. C'est le début d'une véritable opposition qui prend un tour, je dirais, plus violent. Et là, on se rend compte, je crois, de deux ou trois réalités qu'il faut peut-être analyser pour conclure cette émission. Mmh. Ce serait de dire, au fond, voilà, on a compris, au terme de la Première Guerre mondiale, que le sionisme, ou le disons, la réalisation du sionisme est liée à une politique proche-orientale. Et donc, c'est lié à des enjeux politiques qui dépassent, je dirais, les objectifs du sionisme et qui sont des enjeux régionaux, stratégiques, internationaux, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la géopolitique. On a compris également qu'il y a un conflit, que ce conflit, comme tous les autres conflits, ne pourra pas faire l'économie de la violence, et que cette violence, elle va devenir, un des facteurs principaux de ce conflit, que bien souvent, les tentatives de négociation, de trouver des accords, les tentatives de certains dirigeants sionistes, et même du côté arabe, de certains dirigeants pour essayer de trouver des possibilités de se mettre d'accord, de répartir la région, de trouver, disons, des possibilités de cohabitation, vont être souvent torpillées par des intérêts qui sont extérieurs, et notamment des intérêts coloniaux de l'Empire britannique, et que finalement, les acteurs sur le terrain sont parfois des pions entre des forces beaucoup plus puissantes qui souvent les manipulent. Ça, c'est une des données de ce conflit, de ce qui se passe de l'histoire du sionisme, c'est que le sionisme n'a pas été seulement l'histoire, je dirais, de l'aspiration, de réalisation d'un rêve, mais elle s'est trouvée face à une réalité, et je dirais face non pas seulement à une réalité, mais aussi face à ce qu'on appelle aujourd'hui la réalpolitik, c'est-à-dire le jeu des puissances, le jeu des intérêts économiques, stratégiques, énergétiques, et donc quelquefois certains points de désaccord qui auraient pu se régler sur le terrain entre les partenaires, finalement, se retrouvent récupérés par les grandes puissances. Donc ça, cette utilisation de la violence qui prend le pas, je dirais, sur la négociation, sur la diplomatie, sur la possibilité d'accord, ça va devenir peut-être un des facteurs principaux. Quelque part, il y a des gens qui lisent l'histoire d'une façon différente d'autres. Jabotinsky avait dès le départ considéré qu'il y avait un rapport de force et que dans son analyse, il y avait une espèce d'objectivité du conflit et que nécessairement, ce type de conflit se termine toujours dans un rapport de force et qu'au terme du rapport de force, on peut arriver à un accord, mais d'abord, il faut que le rapport de force soit tranché en faveur d'un camp ou d'un autre. Donc, quelque part, nous avions intérêt à nous renforcer, à avoir accès à la puissance, à pouvoir nous défendre et donc à pouvoir utiliser nous-mêmes la violence ou la force pour pouvoir réaliser cet objectif. Il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments, de bonnes idées et de beaux rêves pour réaliser nos aspirations. Ça, c'est peut-être la deuxième leçon de à la fois de ce réseau Nili et de les légions juives et de l'organisation d'autodéfense qui s'est créée par la suite. On a compris que dès les années 20, l'idée d'une Haganah, l'idée qu'il y ait une autodéfense, qu'il y ait un apprentissage des armes, apprentissage, pour ça que l'on a appelé cette émission aux armes sionistes, qu'il fallait prendre des armes, qu'il fallait former des bataillons, parce que sans cela, il ne serait pas possible d'entrer dans l'histoire. Et ça, je crois que c'est la deuxième leçon. Et la troisième leçon, peut-être plus compliquée, c'est de se dire qu'au fond, est-ce que c'était évitable ? Est-ce que c'était évitable ? Probablement non, parce que face à certaines forces qui sont apparues au XXe siècle, le sionisme est devenu, je dirais, s'est inséré dans un mouvement à la fois de libération nationale, comme d'autres mouvements, mais aussi dans des mouvements qui ont utilisé, les forces spirituelles, la religion, le patrimoine culturel, la culture. Donc, on nous sommes trouvés aussi face, parfois, et ça apparaît déjà à ce moment-là, des conflits qui sont des conflits culturels, des conflits de civilisation, comme on dit aujourd'hui, des conflits de valeurs. Et quelque part, le sionisme a dû tout le temps être en équilibre entre la défense des valeurs, qui sont les valeurs universelles, les idéaux du judaïsme, et puis le réalisme, le pragmatisme, quelque part. Est-ce qu'on peut vivre dans une société aujourd'hui et faire l'économie de ces deux paramètres, je dirais, d'avoir d'un côté des valeurs universelles, des très beaux sentiments, des très belles idées, et puis être dans la réalité, être pragmatique et parfois même peut-être aussi cynique d'une certaine façon. Et ça, c'est peut-être la leçon de l'histoire. Et je crois que Nili et la Légion juive ont ramené, quelque part, le peuple juif dans l'histoire. De ne plus être simplement des agents passifs de l'histoire, mais d'être des agents actifs.
Absolument.
C'est-à-dire d'avoir une influence, faire l'histoire, c'est prendre son destin en main. Et ce qu'ont fait les combattants du réseau Nili et de la Légion juive et d'organisations d'autodéfense, c'est qu'ils ont considéré que prendre son destin en main, c'était aussi prendre aussi les armes, se défendre, parce que pour vivre, il faut aussi se donner, je dirais, le pouvoir et la capacité de vivre, et que ça passait parfois par la violence, par la force, même si voilà, ça n'est pas quelque chose que l'on souhaite tout le temps, mais en brera, comme on dit en hébreu. On n'a parfois pas le choix.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF, et nous vous retrouvons très très bientôt. Au revoir.
חשבנו על כלב, מכשירים עם חיבור לחשמל ומיטת ילדים, והחדר הרגיש קצת קטן אז פתחנו את הדלת, וכשנכנס האוויר נכנסו אנשים אחרים. וכשמישהו מכה אני לא שומע, זה נשמע כמו פיצוץ מרחוק או משהו עמוק.